BW. Vue d'Allemagne.
L'état de santé des dirigeants politiques relève-t-il du domaine public et devrait-on informer la population en cas de maladie ? La question se pose en Allemagne depuis que la chancelière a eu des tremblements à deux reprises lors de manifestations officielles. Officiellement d'ailleurs, tout va bien. Dans la seconde partie de ce magazine, on s'intéresse une fois encore au passé colonial de l'Allemagne. L'histoire de la colonisation allemande a été longtemps enseignée à l'université de Cologne sous un angle révisionniste. Une universitaire veut faire la lumière sur ce passé peu reluisant. Vous écoutez bien Vue d'Allemagne, willkommen et bienvenue. Qu'arrive-t-il à Angela Merkel ? Deux fois en moins de 10 jours, la chancelière allemande a été secouée de tremblements incontrôlables. Et ce n'est pas sa coalition gouvernementale vacillante qui semblait en être la raison. Le 18 juin, Angela Merkel accueille à Berlin le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les deux dirigeants se tiennent debout côte à côte pour assister à une parade militaire. Le thermomètre affiche 30 degrés. Tandis que l'orchestre joue l'hymne officiel de la République fédérale allemande, la chancelière est soudain prise de tremblements qu'elle tente apparemment de réprimer, en vain. Les caméras filment pendant de longues minutes cette scène embarrassante. Les flashs crépitent. Angela Merkel fera la une des quotidiens le lendemain. Une heure plus tard, à la conférence de presse, les journalistes interrogent la chancelière sur son état de santé. Angela Merkel rassure tout le monde, elle va bien.
Une question personnelle. Comment allez-vous ? Les citoyens doivent-ils se faire du souci ?
J'ai bu au moins 3 verres d'eau. Apparemment, j'en avais besoin et donc je vais très bien.
Le 27 juin, 9 jours après ce premier accès de faiblesse, Angela Merkel est pourtant victime d'une nouvelle crise de tremblement en public. Cette fois, c'est au beau milieu d'un discours du président fédéral Frank-Walter Steinmeier. La chancelière, debout à côté de lui, essaye de maîtriser les spasmes qui agitent ses mains et ses jambes en croisant et décroisant les bras. 2 minutes de tension visible, Angela Merkel ne quitte toutefois pas la scène. Alors que la presse et surtout les réseaux sociaux s'emballent, son porte-parole Stefan Seibert assure qu'elle est en bonne santé. La preuve, la chancelière s'envole le lendemain pour Osaka au sommet du G20. La communication gouvernementale est bien huilée. Au rendez-vous tri-hebdomadaire avec les médias berlinois, la porte-parole adjointe Martina Fitt confirme qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir.
Les images que l'on peut voir d'Osaka montrent une chancelière tout à fait active et en bonne santé qui accomplit son travail et assiste à tous les rendez-vous fixés. Sur l'incident qui s'est produit hier, Stefan Seibert s'est déjà exprimé et je n'ai rien à ajouter.
Angela Merkel confirmera elle-même à la conférence de presse finale du G20 que ses accès de faiblesse n'étaient que passagers. Mais toutes ces assurances ne dissipent pas les doutes. L'inquiétude est d'ailleurs légitime, estime le politologue allemand Hans Stark. Il est chercheur à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales.
Savoir si les dirigeants que nous avons élus sont en bonne santé, c'est un droit pour le citoyen en quelque sorte. Il doit y avoir une transparence. En même temps, cette transparence ne doit pas ou ne peut pas violer la sphère privée de chacun, y compris d'un chef de gouvernement. Donc là, on entre dans une zone qui est un peu floue et à chaque État, à chaque gouvernement, à chaque opinion publique, de cerner un peu le problème et de décider ce qui convient le mieux.
En Allemagne, les responsables politiques ne sont pas tenus par la loi d'informer la population de leur état de santé. C'est à peine si les dispositions en cas de vacance du pouvoir sont inscrites dans la loi fondamentale. Angela Merkel, qui aura 65 ans ce mois-ci, n'a pas non plus habitué les Allemands à se faire du souci. Même après un accident de ski et une jambe cassée en 2014, elle a continué à gérer les affaires, appuyée sur ses béquilles. Que se passerait-il alors si la chancelière ne pouvait plus assumer ses fonctions ? Selon Hans Stark, cela n'empêcherait pas l'exécutif de fonctionner.
En Allemagne, d'abord, il n'y a pas de vacances au pouvoir, même si le chancelier est empêché d'exercer ses fonctions pendant un temps, d'abord parce qu'il y a un vice-chancelier. Donc Mme Merkel, empêchée, même en vacances, il y a toujours un chef de gouvernement. Et ensuite, si vraiment il y a vacance de pouvoir pour des raisons sérieuses, il y a toujours le président fédéral qui peut pendant un temps, non pas diriger le pays, mais qui peut prendre des décisions rapidement pour dissoudre le Parlement, provoquer des élections anticipées, nommer des nouveaux ministres sur la base de propositions qui émanent des partis. En tout cas, faire en sorte que la vacance de pouvoir, ne perdure pas trop longtemps.
Dans un régime présidentiel comme les États-Unis, le chef de l'État est soumis à un examen médical régulier et son bulletin de santé publié. La France avait elle aussi instauré ce système après la mort du président Pompidou, décédé d'un cancer alors qu'il était en exercice. Cela n'a pas empêché l'opacité autour de la fin de mandat de François Mitterrand. Et en Afrique aussi, le mystère qui entoure la santé de certains chefs d'État est un sujet récurrent de questionnement. La tentation est grande par ailleurs pour les responsables politiques de placer leurs fonctions avant leur vie personnelle. Hans Stark est toutefois convaincu qu'Angela Merkel ne mentirait pas aux Allemands si elle avait des ennuis de santé sérieux.
On l'imagine mal cacher un véritable problème de santé à son opinion. Elle est sérieuse. Le moment venu, elle tirait les conclusions de sa situation, les conséquences, sans peut-être même dire ouvertement l'origine de son malaise. Mais elle ne resterait pas au pouvoir si elle ne pouvait pas l'exercer.
Angela Merkel a déjà passé la main pour la direction du Parti démocrate conservateur, mais elle est encore théoriquement chancelière jusqu'en 2021, date prévue pour les prochaines législatives, à moins que les élections régionales de septembre, notamment en Saxe, ne sonnent le glas de la grande coalition et la fin de son mandat. La rentrée politique sera chaude en Allemagne. On souhaite un bon été à Angela Merkel.
Shaking from carrying this torch, from carrying this torch for you.
On prend maintenant la direction de Cologne, dans l'ouest de l'Allemagne, où l'université fête son centenaire. En réalité, l'université de Cologne a été fondée en 1388 et c'est même l'une des plus vieilles du pays. C'est surtout l'une des plus importantes, avec près de 50 000 étudiants, ce qui en fait une des fiertés de la région. Et pourtant, ses dirigeants ont longtemps soutenu l'exploitation de l'Afrique et de ses habitants. Alors pour ne pas oublier, pour informer sur ce passé trouble souvent méconnu, une femme a décidé d'organiser des visite sur le campus. Bébéro Lehmann emmène les visiteurs à pied, une heure et demie durant, explorer le passé colonial de l'université de Cologne. Hugo Flatatalon l'a accompagné pour Vue d'Allemagne.
Bonjour et bienvenue pour ces visites coloniales.
Petite veste bleue sur le dos, lunettes sur les yeux, carte de l'Afrique et documentation dans les mains, Bébéro Lehmann débute sa quatrième visite en quelques semaines. Visite guidée sur le passé colonial de l'université de Cologne. Et malgré la pluie qui menace, l'horaire en pleine semaine dans l'après-midi peu adapté à ceux qui travaillent, une quinzaine de personnes lui font face. Des étudiants, bière à la main, des retraités, appareils photo en bandoulière. Bébéro Lehmann commence par une mise au point.
Le passé colonial de l'Allemagne est relativement court. C'est pour ça que certains pensent toujours que ce n'était pas si grave. Mais c'est un mauvais jugement. Les Allemands étaient aussi brutaux que les autres puissances coloniales. Et puis, le premier génocide du XXe siècle a aussi été commis par les Allemands contre les Herero et les Nama en Namibie. Et puis, l'Allemagne n'avait plus de colonies après 1919, mais il y avait tout un mouvement révisionniste dans la République de Weimar et aussi après au temps du national-socialisme qui agissait pour que l'Allemagne récupère ses colonies.
C'est en grande partie de ces mouvements que Bébéro Lehmann, qui a étudié l'histoire coloniale européenne et allemande, parle aujourd'hui en emmenant les visiteurs devant les lieux où ses discours et ses politiques étaient diffusés. Devant un amphithéâtre à l'intérieur de l'université, devant des passants curieux, Bébéro Lehmann raconte comment les théories de la domination blanche ou du rôle civilisateur des colons se propageaient entre les deux guerres mondiales.
Les thèmes coloniaux avaient une place importante. Il y avait des cours obligatoires que tous les étudiants devaient suivre. Histoire coloniale, puis politique coloniale et principes du droit international. Et puis tous les trimestres, en plus de ça, il y avait des cours optionnels sur les thèmes coloniaux qu'on pouvait choisir de suivre aussi.
À l'origine de cette organisation, les dirigeants de l'université et puis les politiques de l'époque. Pour attirer l'attention, Bébéro Lehmann en cite quelques-uns pas choisis par hasard.
Konrad Adenauer a aussi été pro-colonie en tant que maire de Cologne. Il s'est beaucoup engagé pour que l'Allemagne obtienne de nouveaux territoires coloniaux.
Konrad Adenauer, le premier chancelier allemand à l'Ouest après la Seconde Guerre mondiale, Homme politique qui bénéficie d'une forte et positive image dans l'opinion pour sa politique d'après-guerre. Dans l'Assemblée, on est un peu surpris.
Oui, que certaines personnes comme Adenauer ou Robert Koch aient été impliquées. Des gens que je me suis toujours imaginé comme de vraies figures.
Bebero Lehmann multiplie les exemples. Devant un autre institut, elle raconte les crânes volés en Afrique lors de soi-disant expéditions géographiques. Des crânes qui sont encore parfois dans des musées, des caves d'universités ou des collections privées.
Mon but est de secouer la conscience historique dominante, de contribuer un peu à la décolonisation de notre culture du souvenir. Parce que je pense que c'est essentiel pour surmonter, par exemple, le racisme structurel dans ce pays. En Allemagne, on en sait encore trop peu sur le passé colonial allemand. L'intérêt grandit, mais il y a encore beaucoup d'ignorance, trop peu de sujets dans les écoles ou les universités, et la mémoire historique prédominante est encore une mémoire où le passé colonial est un sous-chapitre.
Mais aujourd'hui, la situation évolue doucement. Les visites de ce genre se multiplient dans les villes allemandes. Elle s'appuie sur les recherches de mouvements des femmes dans les années 80, ceux de mouvements afro-allemands, d'initiatives diverses ou encore des travaux universitaires. Ici à Cologne, Bebero Lehmann a même pu s'appuyer sur les recherches de la docteure Anne-Catherine Horstmann et de la professeure Marianne Berros-Gerst, pionnières dans les recherches relatives à la ville. Et c'est l'université, via le Global South Study Center, qui finance les visites. Des visites où Bebero Lehmann fait 7 arrêts devant 7 lieux emblématiques de l'université. Elle évoque aussi les résistants africains de la première heure exilés en Allemagne. Et à la fin, après 1h30 de visite, personne n'est indifférent en repartant. Comingo, qui voulait en savoir plus alors que son fils étudiant est parti pour un an en Namibie.
C'est intéressant de voir et de suivre comment les choses continuent de fonctionner aujourd'hui. Et enfin, d'essayer de contrecarrer, qu'il y ait enfin un peu d'équilibre. L'Afrique d'aujourd'hui est encore intéressante pour les matières premières, les terres rares, etc. Quand notre ministère offre une aide au développement, ça s'appelle comme ça, mais il ne s'agit pas d'une aide réelle pour la population, mais souvent uniquement d'événements de promotion de l'économie allemande.
À l'image d'Ingo, on comprend dans le discours de beaucoup de visiteurs qu'ils avaient déjà souvent un intérêt pour l'histoire coloniale et le néocolonialisme avant d'arriver ici. Mais Bebero Lehmann espère que la multiplication des visites et des initiatives dans le pays permettra d'intéresser un public encore plus large avec le temps. Avant de laisser partir ses visiteurs aujourd'hui, elle leur a d'ailleurs fourni une liste de livres sur ces sujets. Peut-être sera-t-elle repartagée dans les jours à venir.
Et c'est déjà la fin de Vue d'Allemagne. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, portez-vous bien. Tchuss! We'll be right back.
to stop the stutter, and not for fumble every word for word I utter. So I just try to chill, but it gets worse and worse and worse still. I need the crowd to get into it. They help me calm down and I can get through it. So high.